courtiser. Alors Narendra Modi est-il vraiment inarrêtable? La plus grande démocratie au monde est-elle en danger, comme l'affirment ses opposants? À marche forcée, peut-il transformer l'Inde en nation hindoue?
La démocratie est dans nos gènes. Voilà ce qu'a déclaré Narendra Modi la semaine dernière dans le magazine Newsweek. Il rajoutera même plus tard que l'Inde est la mère de la démocratie, rien que ça.
Saluer, oui, parce que l'Inde, c'est le seul pays, si on parle des pays de Moyen-Orient, à part Israël, en allant jusqu'à Australie, c'est le pays qui a eu une démocratie et un changement de gouvernement tous les 5 ans à partir de 1947. Jamais est-ce qu'il y a un attentat vers un coup d'État et que les Indiens n'accepteront pas un coup d'État. On a eu une période sombre de 18 mois, comme Mme Gandhi avait déclaré un état d'urgence, mais c'était toujours des civils au pouvoir. C'est un record qui est sans rival dans le sud global dont on parle aujourd'hui. Et est-ce que c'est une vraie démocratie ou une autocratie électorale? Ça, c'est la question.
Il y a eu des alternances en Inde, et non seulement il y a des alternances au centre, mais il y a des alternances dans chacun des États.
Alors on va...
Ce qui fait une double alternance, une double démocratie.
On va être finalement moins débattu dans les semaines qui ont précédé cette réélection, parce que l'opposition a eu du mal à se recomposer. Il y a eu quand même une alliance qui s'appelle India, qui s'est composée de plus de 20 partis, mais elle s'est quand même délitée, et ils ont eu du mal à porter un programme politique qui faisait vraiment qui portait un projet alternatif à celui de Narendra Modi, mis à part le fait d'alerter sur les dangers que représente le Parti nationaliste hindou en termes de protection des minorités. Et c'est une réelle, il y a des vraies dérives autoritaires, mais ils ont eu du mal à proposer un projet alternatif par rapport à celui du BJP, qui se projette déjà sur l'Inde en 2047 et qui promeut cette vision de l'Inde développée.
Alors, la constitution est toujours la même. C'est la constitution de 1950 qui a été rédigée par un certain Ambedkar, qui était très célèbre parce que c'est un Dalit, un sans caste en réalité, qui a fait des études d'avocat en Grande-Bretagne, comme d'ailleurs Nehru, comme d'ailleurs Gandhi. C'est une république d'avocats formée en Grande-Bretagne et qui avait transcrit dans la Constitution, en effet, quelque chose qui ressemble aux institutions britanniques, c'est-à-dire un régime parlementaire avec en plus une Cour suprême qui était empruntée aux États-Unis. Et cette Constitution est toujours là. Donc l'enjeu, en fait, là, le vrai enjeu de l'élection qui commence demain, c'est de savoir si le BJP de Narendra Modi et leur alliance aura la majorité des 2/3 ou simplement la majorité absolue. S'il a la majorité des 2/3, il peut modifier cette constitution, qui ne l'a pas été de façon substantielle. Elle a été à la marge. Quelquefois, il y a eu des amendements. Mais effectivement, on s'inquiète du sort qu'il réserve à cette constitution si, par hasard, il avait une majorité des 2/3 et s'il voulait inscrire qu'il s'agit d'un État hindouiste.
Voilà, justement.
C'est le grand enjeu, mais je mettrai un petit bémol là, parce que pas simplement qu'il a besoin de 2/3 des sièges, mais il faut aussi que 50% des États qui constituent la Fédération indienne doivent aussi voter pour un changement de constitution. Donc, ce n'est pas tout à fait sûr que Narendra Modi arrive à installer un gouvernement BJP de son parti dans 50% des États, des 28 États constituants de l'Union indienne.
Et pourtant, s'ils obtenaient les 2/3 des voix pour modifier la constitution, en pratique, a priori, leurs objectifs, c'est... qu'est-ce que ça veut dire une hindouisation? Il y aurait peut-être une uniformisation du code civil qui est débattue aujourd'hui et qui a été mise en place dans un des États de l'Inde, dans l'Uttarakhand. Mais a priori, aujourd'hui, le BJP est plutôt sur une ligne de chaque État fera l'uniformisation qu'il recherche. Quelque chose qui est à leur programme aussi, s'ils peuvent modifier la Constitution, enfin en tout cas la loi sur les élections, c'est d'aligner tout le calendrier électoral des États fédérés avec les élections nationales, pour pouvoir surfer sur une vague d'élections majoritaires et pouvoir bénéficier, limiter les alternances au sein des États fédérés. Donc là, on n'est pas sur une hindouisation, mais on est sur un renforcement de la majorité potentielle du BJP.
Alors ce nationalisme porté par Narendra Modi et cette hindouisation à marche forcée qu'on évoque se traduit aussi, Anna, par une réécriture des manuels scolaires d'histoire.
Oui, disparue l'histoire des Moghols, cette dynastie musulmane qui a régné en Inde du XVIe jusqu'au milieu du XIXe siècle. Disparue aussi les émeutes anti-musulmans en 2002 dans le Gujarat, cet État qui était gouverné à l'époque par Narendra Modi. Plus de traces non plus de l'assassinat de Gandhi par un nationaliste hindou en 1948, ni de l'état d'urgence, on en parlait tout à l'heure, qui avait été décrété par la première ministre Indira Gandhi entre 1975 et 1977. Voilà, tous ces passages de l'histoire ont disparu des manuels du secondaire. Et le gouvernement nationaliste ne cache pas sa volonté, je le cite, de réécrire l'histoire de manière glorieuse dans le but d'inspirer les générations futures. Ce sont d'ailleurs les mots du ministre de l'Intérieur il y a 2 ans. Mais ce n'est pas tout. Le gouvernement s'attaque aussi aux matières scientifiques. Depuis 2014, le BJP rappelle régulièrement la supériorité de l'hindouisme dans le domaine des sciences et va même jusqu'à remettre en cause certaines théories scientifiques occidentales. Résultat, depuis la rentrée scolaire 2023-2024, le théorème de Pythagore comme la théorie de l'évolution de Darwin ne sont plus du tout enseignés dans le secondaire. Vaiju Naravane, est-ce qu'en Inde, voilà, ça ne choque personne? Il y a des réactions?
Il y a beaucoup de réactions chez les universitaires, chez les intellectuels et d'autres. Mais comme Narendra Modi et ses alliés détiennent 303 sièges dans un Parlement qui fait 545 sièges, ils peuvent faire passer n'importe quelle législation qu'il veut. Mais quand vous entendez un ministre de la Culture et ministre de l'Éducation qui dit « Mais on n'a jamais vu un singe se transformer en humain. » Et la théorie de l'évolution, donc, pour eux, c'est tout simplement absurde. Quand vous avez des gens qui disent « Non, dans les Védas, on avait déjà inventé l'aviation, qu'on a déjà décrit les avions qui volaient dans les Védas », qu'est-ce que ça fait au tempérament scientifique que la Constitution 1950 a essayé de nourrir au sein du pays? Parce que le but, c'était de faire de l'Inde un État moderne, progressiste, qui entre dans les prochaines ères, dans les prochains siècles. Et là, on est en train de retourner en arrière.
Ce qui concerne la réécriture de l'histoire, effectivement, c'est une réécriture de l'histoire en fonction des mythes qui fondent l'hindouisme, du Mahabharata, des Védas, etc., qui sont des histoires mythiques, dont il n'y a aucune preuve historique en réalité. Et dans le fond, les gens aiment bien ça, puisqu'ils ont été habitués à ne pas lire l'histoire scientifique, comme on le dit, mais des histoires racontées par d'autres, par les Anglais, par exemple, qui avaient écrit des histoires de l'Inde, qui étaient l'histoire de l'Inde racontée par les Anglais. Et puis maintenant, c'est l'histoire de l'Inde racontée selon les mythes hindous. Et dans les deux cas, ça ne correspond pas à la réalité. Sur les questions scientifiques, effectivement, je pense que les Indiens ne prennent pas ces déclarations très au sérieux, parce que l'Inde est un pays très scientifique, qui produit chaque année 350 000 ingénieurs. C'est pratiquement autant que l'Amérique du Nord et l'Europe de l'Ouest réunies. Et par conséquent, c'est d'ailleurs ce qui fait sa force. Et si vous voyez les gens qui dirigent les entreprises de haute technologie, y compris dans la Silicon Valley, ce sont très souvent des Indiens. Et eux croient aux mathématiques et croient à la science contemporaine.
Je pense que quand il a été élu en 2014, en effet, à un moment de son élection, il était privé de visa aux États-Unis et il a réussi à faire changer, si vous voulez, sa vision. Et en 2014, il faisait quand même attention. Il était assez modéré, ça ne voulait pas dire dans son idéologie, mais dans ses discours. Il était beaucoup plus modéré qu'aujourd'hui dans son discours sur le nationalisme hindou, en tout cas sur la scène internationale. Et tout son discours était quand même orienté vers le développement économique
du pays.
Pourquoi
est-il devenu incontournable sur la scène internationale aujourd'hui? Pourquoi tous les chefs d'État le rencontrent?
Alors, il bénéficie du contexte international, de la montée en puissance de la Chine, de l'émergence de des stratégies par les pays occidentaux de stratégies dans l'Indo-Pacifique pour accroître leur présence et puis contrebalancer la Chine. Et dans ce contexte-là, en plus d'un développement démographique et économique, l'Inde est considérée comme un partenaire incontournable et un pilier stratégique pour les pays occidentaux et pour des pays comme le Japon ou l'Asie du Sud-Est également.
Et justement,
il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est que l'Inde respecte les organisations internationales et le droit international. Le deuxième, c'est que l'Inde a une position géographique unique. L'océan qui l'entoure porte son nom, l'océan Indien. Et par conséquent, entre l'Afrique et les territoires français du Pacifique, eh bien, il y a l'Inde. Et par conséquent, l'Indo-Pacifique, c'est l'Inde. Donc nous avons besoin de l'Inde et l'Inde a besoin de nous parce que nous sommes le partenaire de diversification par rapport à la Russie, elle s'est fournie autrefois en armes en Union soviétique, et par rapport aux Américains qui aimeraient bien utiliser l'Inde contre la Chine. Or l'Inde a inventé une formule de politique étrangère qu'elle appelle le multi-alignement, c'est-à-dire je conclue des accords de coopération avec tout le monde, avec tous ceux qui le veulent bien, sur des sujets qui nous conviennent à tous les deux, et nous ne faisons pas d'alliance rigide. L'OTAN, pour l'Inde, c'est quelque chose de ringard. Les alliances militaires rigides, c'est quelque chose du passé. Alors, eux voient une politique étrangère extrêmement souple et diversifiée, avec des accords de coopération stratégiques, avec beaucoup de partenaires. La France a été l'un des premiers en 1998.
Un alignement qui ne dit pas son nom, parce qu'il faut aussi bannir l'histoire d'un tel et un tel, mais il faut aussi bannir l'histoire de Nehru et l'héritage de Nehru, qui était le premier ministre de l'Inde. Donc, Narendra Modi ne prononcera jamais le nom Nehru, qui est vraiment le principal acteur dans le non-alignement. Ce que l'Inde pratique aujourd'hui, c'est le non-alignement, surtout renforcé d'intérêts nationaux spécifiques. Le non-alignement avait quand même une base un peu moraliste qui est considérée comme très ringarde aujourd'hui. On va là où sont nos intérêts et ce qui nous profite. Alors, la France profite à l'Inde parce qu'il y a des armements. On veut absolument diversifier l'offre des armements. On ne veut pas être dans les poches ni des Américains ni des Russes. Donc, voilà, c'est l'intérêt que la France a pour l'Inde. C'est une coopération mutuelle au bénéfice des deux.
Elle tient, on l'a vu dans le positionnement de l'Inde par rapport à l'invasion russe en Ukraine. Les Indiens se sont, ont refusé de condamner directement la Russie. Et ils ont, au début, les diplomaties occidentales se sont quand même offusquées parce que c'est un grand partenaire et ils s'attendaient quand même à plus de soutien. Mais les Indiens ont expliqué leurs intérêts et au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est accepté. Et justement, les Occidentaux ont pris le parti de « Ok, vous ne voulez pas condamner directement la Russie parce que on a compris vos dépendances, notamment militaires, à la Russie. Du coup, on va vous aider à diversifier. » Donc, il y a une compréhension mutuelle sur un certain nombre de sujets comme ça. Et pour l'instant, ça tient et ça fait... C'est pas propre à Narendra Modi. Comme vous dites, ça remonte au non-alignement. La différence aujourd'hui, c'est la capacité à assumer cette volonté de puissance qui est beaucoup plus assumée sur la scène internationale, mais qui renvoie quand même à un héritage assez lointain.
Juste la croissance économique, parce que 6% cette année, c'est un des seuls grands pays qui fasse 6% de
croissance. Cinquième puissance économique mondiale aujourd'hui.
Voilà, et qui sera la troisième dans quelques années. Voilà. Parce qu'ils ne sont pas très loin de l'Allemagne, et ensuite il y aura encore à sauter le Japon. Donc ça, c'est une question.
Donc un siège au Conseil de sécurité de l'ONU,
oui, ça serait tout à fait légitime. La difficulté, c'est qu'à l'ONU, lorsqu'on discute du sujet, dès qu'on discute d'un pays asiatique, naturellement, la Chine dit non. Dès qu'on discute d'un pays africain, on parle de l'Afrique du Sud ou du Nigeria, mais l'Égypte dit non. Il y a toujours un pays de la zone qui s'oppose à la candidature. Et évidemment, en Asie, il y a d'autres candidats. Il y a le Japon. Le Japon perdant de la Deuxième Guerre mondiale, comme l'Allemagne, mais il voudrait bien aussi être membre permanent du Conseil de sécurité. Donc il faudrait qu'il y ait un grand Big Bang pour que les gens en arrivent à une solution raisonnable et résoudre les différents problèmes que je viens d'évoquer en même temps.
L'Inde a le plus grand nombre de milliardaires aujourd'hui, il y a plus que 200. Bombay est la ville qui a le plus grand nombre de milliardaires dedans, qui est habité par le plus grand nombre de milliardaires au monde. Et puis, le problème avec la cinquième économie du monde et tout le reste, c'est que quand on voit la revenue par tête d'habitant, l'Inde reste très, très pauvre. Il y a au moins 500 millions d'Indiens qui vivent, mais vraiment dans la pauvreté la plus absolue. On a un grand programme de subvention de l'État où, quand vous avez 300 millions de personnes qui doivent recevoir les rations alimentaires tous les mois de la part du gouvernement pour survivre, ça vous dit long, et les écarts entre les plus riches et les plus pauvres continuent à se creuser.
Merci.